Et voilà, on se retrouve sur les ondes de Radio Galère, comme toutes les semaines à 15h, avec notre ami Yamine qui est dans la cabine technique et qui nous a donné le feu vert. Enfin, c'est pas le feu vert, c'est un abat-jour rouge, mais ça revient au même. Voilà. Bonjour à mes complices, Roselyne, bonjour.
Bonjour. Yamine.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors, balayage de l'actualité internationale. Je ne vais pas commencer par l'Ukraine, vous en entendez beaucoup parler, mais j'en parlerai quand même aussi parce qu'on en parle de tellement de façon différente qu'il y a de temps en temps, et chaque semaine, l'occasion de recadrer certaines informations. Mais je vais passer un peu par l'extérieur pour nous distraire de cette omniprésence de la question ukrainienne. En faisant l'impasse, on verra ça la semaine prochaine, sur l'espèce de confusion qui règne par rapport à l'élection présidentielle française, qui est assez pénible à suivre, qui donne lieu à beaucoup de règlements de compte, d'invectives. Toi, c'est toi qui as trahi, c'est ci, c'est ça. Enfin, on sent bien un état de décomposition de l'opinion publique, une espèce de crispation par rapport à cette élection dont le sens manque, puisqu'au fond, le choix n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de choix. Quoi qu'on dise, alors là, on va dire déjà que je retire les comptes. Non, en fait, s'il y a trouble dans l'opinion, s'il y a des agressions sur le net très très nombreuses des uns vers les autres, c'est qu'effectivement, le trouble se manifeste comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette élection dont finalement, elle n'est pas porteuse d'espoir pour pas grand monde. C'est ça la réalité de la situation. Bon, c'est dit et n'en parlons plus. On en reparlera nécessairement la semaine prochaine et dans les semaines suivantes. Mais je vais donc nous excentrer. Je vais vous rappeler, mais on l'avait dit déjà à l'occasion d'une émission spéciale sur l'ASEAN, donc l'Association des sociétés des pays d'Asie du Sud-Est asiatique, ASEAN, qui est quand même un gros ensemble assez unifié, alors très divers dans ses origines historiques et politiques, mais assez unifié, qui va en gros du Vietnam jusqu'à l'Indonésie. Hein, donc on situe entre la partie indienne et puis la partie chinoise de l'Asie, ça regroupe quand même 700 millions de personnes, dont le plus important pays en population, le quatrième plus important pays en population du monde, je veux parler de l'Indonésie, qui dépasse déjà la 300 millions, qui est tout très très proche du chiffre de la population des États-Unis. Les trois autres étant, on le sait, les États-Unis, et puis loin, très très loin devant, l'Inde et puis la Chine. Cette Indonésie, dont on parle peu, mais qui a un rôle de plus en plus important, à la fois dans cette économie dont elle est le poids lourd, au moins démographique et même économique, parce que l'Indonésie, dans sa complexité insulaire, a d'énormes ressources dans quantité de produits, du charbon, du minerai, du pétrole, des tas de choses, du bois, bien entendu, des ressources naturelles. Et c'est son tour de rôle, elle va assurer cette année la présidence du G20. Le G20, je le rappelle, donc cette rencontre un peu informelle des 20 pays les plus riches du monde, qui représentent à eux tous plus de 90% du PIB mondial, donc qui pèse lourd dans l'économie mondiale. Donc l'Indonésie se retrouve à la tête du G20 et elle devait organiser un sommet du G20. Alors c'était prévu pour le printemps, puis les fins de Covid, etc., fait que ça a été reporté au mois d'octobre à Bali. Bali, donc une des îles les plus connues ici de l'archipel, de l'immense archipel indonésien. Et ce sommet du G20 est précédé par une conférence en ligne. Alors pour ceux qui pourraient suivre une conférence et dire quelques mots en anglais, je signale qu'elle aura lieu jeudi qui vient à 15h heure française sur un site qui est le site de... Alors je le donne, c'est HTTPS, donc ça c'est Internet, Bandung Spirit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bandung Spirit? L'esprit de Bandung. En un seul mot, c'est rappeler la conférence de 1953 qui a créé le mouvement des non-alignés et qui a marqué le début d'une prise de distance de la plupart des pays qui étaient tous les pays du sous-développés de l'époque, à commencer par la Chine, qui à l'époque était un pays sous-développé.
L'Inde.
Qui ont dit on essaye de sortir du climat de guerre froide, on n'est ni dans le camp soviétique ni dans le camp des États-Unis, et puis on ne veut pas de la guerre froide. C'était pas qu'ils voulaient pas, ils n'avaient pas des idées sur les uns et les autres, mais ils ne voulaient pas être impliqués dans la guerre froide. C'était l'esprit de Bandung. Alors ça a été suivi par d'autres conférences de cet esprit de Bandung, donc ce mouvement des non-alignés, qui existe toujours sur le papier. Alors, ils se réunissent, connaissent, ça a moins d'écho parce que le monde a beaucoup changé depuis, hein, mais ils continuent à se réunir. Et après les conférences, la conférence de Bandung, donc en Indonésie, il y a eu la conférence de Belgrade, puisque, je le rappelle, la Yougoslavie de l'époque, avant d'être détruite, bombes à l'appui par les États-Unis et l'OTAN en 1999, pour finir. Et puis, il y avait eu ensuite une conférence à La Havane, donc Cuba fait partie et faisait partie du mouvement des non-alignés. Et donc, ce qui se joue là, c'est que l'Indonésie rappelle cet élément historique pour dire maintenant que je suis le président du G20, que désormais je pèse un tout autre poids que le poids que je pesais en 1953. Je rappelle qu'en 1953, l'Indonésie n'était sortie du joug colonial néerlandais que depuis 6 ans. Donc elle pesait pas très lourd, même démographiquement. Mais maintenant, elle pèse beaucoup plus lourd et elle est respectée au point qu'elle était, elle devait prendre cette année 2022 la présidence de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, mais elle ne l'a pas pris pour ne pas faire deux choses à la fois. Alors ça, c'est un petit conseil pour Emmanuel Macron. On ne fait pas deux choses à la fois, voire trois, voire quatre. Quand l'Indonésie a vu arriver les doubles tâches qu'elle allait avoir, d'une part présider le G20 et le préparer correctement, d'autre part présider toutes les réunions, et elles sont nombreuses, c'est un peu comme l'Union européenne pour ça, de l'Association de l'Asie du Sud-Est, elle a dit « je ne peux pas faire les deux à la fois ». Et elle a dit « je demande aux amis de l'Asie du Sud-Est de me décharger de mon rôle de président en 2022, je l'assumerai en 2023 ». Et ils ont trouvé un remplaçant qui est l'Inde, qui a dit ben, « je prends la place et on permute, il n'y a pas de souci ». Mais au moins l'Indonésie a dit « je veux travailler proprement ». Voilà, de conseils tardifs que je donne à l'équipe de l'Élysée, on peut travailler pour moi à condition de dire ben voilà, je ne peux pas tout faire à la fois et je préfère une chose bien, puis l'autre bien l'année prochaine.
Savoir renoncer.
Savoir renoncer, puis être. Voilà, les capacités qu'on a, savoir mesurer ses limites, de savoir pas avoir des ambitions plus hautes que, voilà, etc. Alors, il y a des tas d'expressions plus populaires que je n'utiliserai pas, mais vous les connaissez, elles vous viennent facilement à l'esprit. Bon. Et donc, il y a ça. Et puis, il y aura donc cette conférence qui aura lieu fin octobre à Bali, donc, qui pourra aller plus loin. Mais là, mon objectif de la table ronde, qui est une visioconférence, comme vous connaissez tous, qui aura lieu donc ce jeudi à 15h, heure française, en allant voir sur le site bandungspirit.org. Hein, vous pouvez, si vous parlez quelques mots d'anglais ou si vous l'entendez, assister à cette conférence et parler en tant que simple citoyen. C'est-à-dire la démarche est intéressante. Je pense qu'il y aura beaucoup d'interventions de tous les pays du monde, et en particulier des membres du mouvement des non-alignés, des Indonésiens, pour dire ben, voilà ce que j'ai à dire, moi, sur l'avenir du monde, qui, après tout, concerne autant les 700 millions de membres de l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est que d'autres. Ça, c'était pour ressortir un peu de nos façons de nous intéresser qu'à notre petit bout de continent. Bien. Ensuite, je vais vous dire quelques mots sur l'Égypte. Sur l'Égypte, parce que l'Égypte, l'air de rien, elle fait aussi partie du mouvement des non-alignés. Elle compte aujourd'hui 109 millions d'habitants. C'est les derniers chiffres que j'ai trouvés. J'en étais resté à 100. Bon, on en est à 109. Et on a beaucoup parlé de l'Égypte parce que, vous savez, il y a tout un climat d'angoisse sur le blé. Vous avez entendu parler de ça ici et là. On a dit... Le blé va manquer. Alors, le blé va manquer. Ce qui ne va pas manquer, c'est les recettes des spéculateurs. Ça, c'est déjà acquis. Alors, le blé va manquer. Alors, on n'en est pas encore là, puisque le blé de la récolte 2022, il n'est pas cueilli. Hein, il n'est pas moissonné. On n'est quand même qu'au mois d'avril. Bon. Et au plus tôt, il sera moissonné fin juin, début juillet, selon les latitudes. Bon. Donc, ce qui manque, ce serait le blé de l'année dernière. Mais ça, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la guerre en Ukraine, le blé de l'année dernière. L'année dernière, l'Ukraine a exporté du blé. La Russie, d'ailleurs, en a exporté aussi, puisque ça vient en gros des mêmes régions qui sont contiguës l'une à l'autre. Donc, on nous a mis dans un esprit, et donc ça s'est traduit dans le prix de la baguette de pain dans nos boulangeries, il y a spéculation sur la future récolte de blé et sur les manques éventuels de blé sur la planète. Il y a effectivement des pays qui disent « Moi, si je ne peux pas acheter, à cause de l'embargo, à cause des sanctions, le blé que j'ai acheté à la Russie, où est-ce que je vais l'acheter ?» Et à ce moment-là, si tous ceux qui disent « J'arriverai pas à acheter du blé russe », puisqu'il était le premier, il exportait plus aujourd'hui, la Russie exportait plus que l'Ukraine, où est-ce que je vais me fournir ? avec cette inquiétude supplémentaire que les ports ukrainiens, le port ukrainien par lequel passait l'essentiel de l'exportation de blé ukrainien s'appelle Marioupol, j'y reviendrai. Bon, donc effectivement, on pouvait, si on a un gouvernement responsable, que ce soit en Tunisie, au Maroc et tout, dire en juillet, en août, quand il faudra donc, avec la nouvelle récolte, reconstituer les stocks, où est-ce que je vais le prendre ? La
demande. Marioupol, elle se trouve au Donbass. Hein,
faut voilà, c'est ça. Oui, oui, on va y revenir. Donc, vrai problème. Et donc, quand il y a une inquiétude des gouvernements, qui est une inquiétude normale de gestionnaire, c'est-à-dire en avril, on se préoccupe de savoir si en août, il y aura encore du blé pour faire le pain pour la population. Bon. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on sait qu'il y a des incertitudes sur un gros exportateur qui s'appelle l'Ukraine et sur la difficulté peut-être de l'autre qui s'appelle la Russie, effectivement, tout le monde dit « qu'est-ce que je vais faire ?». Et à ce moment-là, quand on dit « qu'est-ce que je vais faire dans un marché libre, international ?», eh bien, les spéculateurs gagnent à tous les coups. C'est classique. Hein. Les prix montent, etc. Et les prix montent même sur le blé de l'année dernière qui a été récolté bien avant la guerre. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est clair. Et donc, vous avez ça directement dans le prix de votre baguette de pain qui est passé. Alors, elle a été à 5 centimes de plus, puis 10 centimes de plus. Et vous allez voir, ça va continuer. Ça n'est pas lié à la guerre. C'est lié au climat de guerre et à l'influence des spéculateurs par rapport au climat de guerre. Le blé de 2021, il y en avait. Hein, il y en avait. Les Égyptiens ont mangé à leur faim, les Tunisiens ont mangé à leur faim, les Africains ont mangé à leur faim, ceux qui importaient du blé, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'était pour recadrer le débat sur l'Égypte. Alors l'Égypte se retrouve donc avec... elle est le pays du monde qui est considéré comme le plus dépendant de l'importation du blé. C'est-à-dire que pour l'économie et même la politique égyptienne, le fait qu'il y ait du pain dans les boulangeries ou qu'il n'y en ait pas, ou qu'il n'y en ait pas assez, c'est un cas de renversement de régime et de révolution populaire. Donc tous les gouvernements égyptiens, depuis qu'il y en a, est très soucieux de la possibilité de nourrir le peuple avec du pain. Ouais, ouais. Donc il faut du blé.
Hobbes.
Voilà. C'est... Et donc, ce qui a déjà été fait, c'est que le gouvernement égyptien, donc dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, a commencé à augmenter ses importations de blé russe. Puisque là, il a de bonnes relations, les Russes fournissent. Avec l'Ukraine, c'est plus compliqué. Hein, et donc, il y a eu déjà, cette année, une inversion de la part de l'Ukraine et de la Russie. C'est-à-dire que l'Égypte, qui achetait beaucoup en Ukraine et un peu moins en Russie, a fait l'inverse. Elle s'est mise à acheter beaucoup en Russie et beaucoup moins en Ukraine. Ça a été la première réaction sensible. La deuxième réaction, elle est intéressante parce que tout gouvernement qui se respecte, qui pense simplement pas à ce qu'il y aura dans la boulangerie demain matin ou la semaine prochaine, dit il faut quand même que j'évite les dangers de cette hyperdépendance par rapport au blé importé. Et ce qu'a fait l'Égypte, c'est qu'elle a acheté en Russie, dans un organisme qui coordonne à la fois l'exportation et la fabrication de machines agricoles, elle a acheté du matériel agricole et elle a décidé, c'était un plan qu'elle avait avant, de remettre en culture certaines parcelles du désert. C'est-à-dire que remonter à l'histoire ancienne de l'Égypte, effectivement, en utilisant l'eau du Nil et en la canalisant, en la faisant circuler, on peut redonner, on peut faire refleurir le désert.
Bon. Joseph.
Et voilà.
Mais
exactement. Et ça, rien n'a changé parce que l'hydrologie, l'existence du Nil et sa faculté donc fécondatrice sont connues de toute éternité. Et donc l'Égypte, en même temps qu'elle importe plus de blé russe, a décidé, elle a acheté, ça s'est fait, du matériel russe de très bonne qualité, du matériel agricole russe, pour en plus rajouter sa capacité locale de production, qui évidemment ne permettra pas de satisfaire tous les besoins tout de suite, mais qui lui donne une certaine facilité, enfin une certaine marge de manœuvre, d'autonomie dans sa culture du blé.
Je voulais rappeler que en Syrie, elle fournissait du blé, même à l'époque. Pour l'extérieur.
Tout à fait.
Et malheureusement, les Américains ont occupé le nord de la Syrie. Ils ont brûlé les champs de blé.
Les récoltes.
Voilà, les récoltes. Et ça pose des problèmes aussi pour la
bien
Syrie.
Sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, ça, c'est donc les différents aspects. Donc la guerre du blé, elle est commencée, mais elle est commencée par les spéculateurs. J'allais insister là-dessus. Et après, chaque gouvernement, avec son commerce extérieur tel qu'il est, le poids de sa population, essaye de trouver des solutions. les plus favorables. Surtout, alors, il y a des systèmes ensuite de blocage des prix. Par exemple, en Égypte, le prix du pain est garanti, c'est-à-dire qu'il est taxé. Le boulanger ne peut pas vendre plus de telle somme, etc. Ça, c'est classique. Ça fait partie des mesures gouvernementales normales quand on a affaire à un produit de première nécessité. Dernier aspect sur l'Égypte. L'Égypte s'est dit, bon, j'achète plus aux Russes. Les Ukrainiens, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ils se sont retournés vers l'Inde. L'Inde qui est aussi un gros exportateur de blé, un gros producteur. Et donc, ils sont en train de discuter de conditions d'approvisionnement, de fourniture de blé en Inde. Vous voyez, comme ça, comme quoi la géopolitique se réorganise d'une façon assez différente de celle qu'on avait l'habitude. Je rappelle qu'il n'y a pas plus de 10 ans, l'Égypte était le premier importateur de blé des États-Unis du monde,
oui.
De très très loin, ouais, de très très loin.
Les États-Unis fournissent aussi beaucoup de blé. Ouais.
Voilà. Alors les États-Unis sont sur ce marché-là, à l'évidence, mais là ils l'avaient manifestement perdu au profit de la Russie et de l'Ukraine. Mais il y a une période où l'Égypte était totalement dépendante du blé des États-Unis.
C'est-à-dire et ça revient plus cher.
Voilà, oui, bien sûr, parce qu'il vient de plus loin. Il vient de plus loin.
Par bateau et tout.
Mais ça faisait partie, c'était aussi partie de la domination de la politique, enfin la domination des États-Unis sur le pays égyptien, qui s'était confirmé avec Anwar el-Sadat. Enfin, la réplique après l'épisode Nasser, ça avait été la soumission totale de l'Égypte aux intérêts des États-Unis.
Jusqu'à présent.
Et ça, voilà. Alors maintenant, ça s'est émancipé un peu, les circonstances aidant. C'était toujours utile de rappeler ça et de ne pas rester braqué sur nos petits problèmes. On a effectivement une réorganisation de l'économie mondiale qui se fait. Alors avec les règles du libre-échange, c'est-à-dire les spéculateurs font la loi, les systèmes de prise d'options sur les marchés à terme fonctionnent à plein, etc. Mais ceci étant, les gouvernements responsables et raisonnables essayent de maîtriser la situation pour que les populations ne meurent pas de faim. Ça, c'est tout à fait important. Je rappelle, parce qu'il faut toujours le dire, que la Chine, depuis qu'elle est passée de 500 millions d'habitants en 1949 à 1,4 milliard, a toujours nourri sa population et toujours resté autosuffisante. Alors, à la marge, ils ont accepté de dire, ben, finalement, on va acheter un peu aux uns et aux autres pour nouer des relations de commerce extérieur. Mais au fond, le jour où on dirait la Chine, les ports chinois sont fermés, je fais l'hypothèse folle, la Chine ne mourrait pas de faim. Mais dans le cadre d'une économie internationale ouverte, ils acceptent d'acheter ici et là un peu des quantités, mais qui sont à la marge. Alors, vous voyez effectivement des arrivées de bateaux avec du blé dans les ports chinois, mais très, très peu. Parce que l'autonomie alimentaire est assurée. Dans ces grandes villes. Et c'est ça qui importe.
Je veux dire, eux, ils font beaucoup plus du riz. Hein.
Mais ils sont premier producteur mondial et de blé et de riz, la Chine aujourd'hui. Mais pour leur consommation nationale principalement. Voilà, c'était pour sortir un peu de notre enfermement sur nos affaires européennes. Et puis, je vais vous parler quand même... Ah oui, puisque j'ai dit la Chine, ah oui, je dis une petite chose sur la Chine, parce que c'est assez amusant. Alors, je n'ai pas réussi à la reproduire et à faire une version audio, mais j'ai vu une toute petite vidéo chinoise sur YouTube, mais c'était sur Facebook, et donc c'est pas... Enfin, je n'ai pas réussi, il y a peut-être des techniciens qui savent pirater des vidéos sur Facebook, moi je ne sais pas le faire. Bon, toujours est-il qu'il s'agissait d'une petite séquence de 5 minutes organisé par deux étudiants apparemment, un jeune homme et une jeune fille, 25-30 ans, etc., qui lisaient un texte en anglais qui était bien construit, en disant « qu'est-ce que c'est que la guerre et comment ça fonctionne ?» Et c'était très intéressant, parce qu'ils commençaient par parler du budget du Pentagone, qui a été donc voté il y a très peu, qui a atteint des niveaux historiques, faramineux, jamais atteints. Et ils ont mélangé ça, alors cette annonce qui paraît une annonce de pure politique, ils ont mélangé ça avec des vidéos qu'ils avaient trouvées ou des images, des comptes des sénateurs, des comptes en bourse des sénateurs qui venaient de voter l'augmentation du budget. C'est-à-dire que le jour même où tel sénateur, dont il y a les noms, on voit les bordereaux internet de la facturation, le jour même où le sénateur vote un budget de 800 milliards de dollars, il a acheté pour 30 ou 40 000 dollars d'actions de Raytheon, de Lockheed, etc., des principaux vendeurs d'armes des États-Unis. C'est-à-dire qu'il se sert lui-même. Il dit, je vote les 800 milliards et j'empoche, moi, alors pas grand-chose, peut-être 8 millions de dollars, mais c'est toujours ça de prix. Et ça fait partie du train de vie du sénateur. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est un rapport qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire tout le temps. La guerre, ça rapporte. à ceux qui la font de loin, hein, et ça se trouve à ceux qui la font faire. C'est ça, très très. Et donc là, on a toute une série donc de. Lui, c'est des petits flashs sur des bordereaux papier qu'ils ont piratés sur Internet, etc. Disant, ben, monsieur un tel sénateur, il a pris tant d'actions de tel groupe, l'autre en a pris tant, etc. Alors des sommes, c'est pas simplement, ils n'ont pas acheté une action quelques dollars. C'est des dizaines de milliers de dollars d'achats. Il y en a même qui achètent la veille du jour du vote. Mm-hmm. Parce qu'ils savent qu'en plus, le lendemain, le cours va monter. Et donc, ils achètent au plus bas. Ça veut dire qu'ils ont. C'est un délit d'initié, ça s'appelle. Hein, ils savent que demain, le Congrès va voter un budget militaire en expansion, que dans ce budget militaire, le budget de Lockheed, j'emprunte par hasard, va augmenter de 30% l'année prochaine, et que le jour où ça sera officiel, l'action de Lockheed à New York aura monté de 30, voire plus de 50%. Donc vous achetez la veille, et rien que dans la veille au lendemain, vous avez fait 30 ou 40% de plus-value. Vous pouvez à la limite les revendre, si ça vous abuse, et si vous pratiquez ce sport-là. C'est à ça que les sénateurs des États-Unis s'occupent. Ils ne s'occupent pas de grande politique mondiale. Non, ils s'occupent de dire, là, on a la vache à lait, allons-y, remplissons-nous les poches, continuons comme avant. C'est ça. Alors, le nombre de morts en Ukraine, le nombre de morts en Éthiopie, le nombre de morts au Yémen, ça leur est totalement indifférent.
C'est fou. Hein ?
On a affaire à des tueurs en liberté, dans le pays des libertés. C'est ça. Alors, cette vidéo est remarquable. Alors, si vous... maîtrisée de Facebook, vous la trouverez. Ça a été publié donc par un universitaire parisien qui s'appelle Bruno Drewski, Drewski. Donc vous tapez son nom, puis vous verrez dans les posts qu'il a mis en ligne ces derniers jours. Elle est parfaite parce que lui, ils ont bien travaillé, ces jeunes gens. Ça dure 5 minutes et ça vous laisse pantois parce qu'à la limite, ben, oui, on a compris. Hein, mais c'est la preuve est faite. Hein, les élus des États-Unis veulent la guerre parce qu'ils sentent la guerre enrichie. Alors elle enrichit ceux qui la commanditent depuis loin et elle n'enrichit pas ceux qui en souffrent ou qui en meurent sur le terrain. Bien, je reste aux États-Unis, puisque j'y suis, pour annoncer une autre surprise. Sur une autre surprise, parce que M. Biden et son équipe commencent à être très très inquiets, c'est-à-dire qu'ils ont compris, et c'est presque officiel maintenant, que M. Trump allait se faire nommer candidat pour la prochaine présidentielle par son parti républicain. Alors, c'est pas décidé, mais enfin, on est dans les phases préparatoires. Et manifestement, Donald Trump tient la corde pour être le candidat républicain en 2024. Alors là, c'est l'effroi total dans le camp démocrate. Il va revenir. Hein. Il a le culot de revenir. Il a l'ambition de revenir. Et le parti s'y prête. C'est-à-dire, le parti voit bien que, dans l'état actuel de l'opinion, c'est la seule chance qu'il a de revenir à la Maison-Blanche. Alors, donc, grosse inquiétude à la fois donc, au sommet de l'appareil démocrate et au sommet des États-Unis, grosse inquiétude dans les États, puisqu'il y a des États, alors vous savez qu'il y a des élections donc, au mois de novembre, il y a des gouverneurs qui vont changer. Et donc, il y a des gouverneurs qui sont démocrates qui disent, là, la poussée républicaine va faire qu'on va perdre nos sièges. Une réelle inquiétude, mais c'est le monstre Trump qu'il a, qui se profile pour 2024. Parce que, je disais toujours, les États-Unis, on est sans cesse en campagne électorale. On n'arrête pas. On n'arrête pas. La preuve, on est en milieu 2022. On est déjà à penser à novembre 2024. Et on ne pense qu'à ça, et on ne pense qu'à ça. Et on ne met beaucoup d'argent dans cette mécanique-là que depuis longtemps et pratiquement tout le temps. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, Biden a fait pas mal de choses, mais ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que pour faire de la peine aux républicains et aux trumpistes, il a dit « Moi, je suis un libéral sur l'immigration ». Très bien. Bon, donc, on savait que Trump avait beaucoup fermé les frontières, en particulier la frontière sud, bien entendu, avait pris des mesures très, très dures. Et donc, l'équipe des démocrates, de Biden, s'est dit « Ah ben, on va montrer que nous, au contraire, on est gentils, ouverts, etc. » Et ils le sont. C'est-à-dire que toutes les difficultés à rentrer sur le territoire des États-Unis par la frontière sud, je ne parle pas du Canada, ont été levées. Alors, tenez-vous bien, ont été levés au point qu'ils rentrent tous les mois via la frontière sud qui est ouverte, 500 000 immigrants par mois. Vous entendez bien, 500 000 immigrants par mois.
Oh, c'est beaucoup.
Voilà, oui, en 4 mois, on est à 2 millions de personnes. Bon, et alors. Bon, alors on les laisse rentrer. Bon, c'est bien, on les laisse rentrer. Avant, on fermait la porte, il y avait des gardes. Vous avez vu toutes ces images-là. Bon, on les laisse rentrer. Mais on les laisse rentrer. On ne leur donne pas un titre de séjour aux États-Unis.
Oui.
On les laisse rentrer. C'est-à-dire, on laisse rentrer tous les mois 500 000 travailleurs illégaux, sans protection, sans rien, sans carte de séjour, sans rien du tout. Mmh. Bon. Et alors, et c'est là que ça devient presque surréaliste. Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été décrit par des journalistes américains. Alors, pas par la grande presse de Washington et de New York, mais il y a d'autres quand même, il y a d'autres journaux qui font leur travail. Et ils sont allés voir ce qui se passait. Et effectivement, alors, ce qu'on appelle la police aux frontières, qui s'appelle là-bas la Border Patrol, hein, eh bien, au lieu de dire, quand ils voient arriver des gens qui n'ont pas de titre de séjour, on vous boucle et effectivement, on vous refoule, ce qui a été fait sous Trump, c'est, je ne le conteste pas du tout. Ils les accueillent, ils prennent leurs caractéristiques génétiques et d'identité, et ils leur disent « vous pouvez y aller ». C'est-à-dire que les 500 000 immigrants illégaux, au terme du droit sur le territoire d'Italie, sont fichés, on sait où, enfin, on les trouvera où on voudra, et où, le cas où il faudrait changer la politique, c'est-à-dire envisager de les renvoyer chez eux, on saurait exactement qui ils sont.
Et oui.
Voilà. Voilà. Alors, donc, on a affaire à une politique qui est à courte vue. Il s'agit de critiquer la politique restrictive de Trump qu'il était, de faire au contraire une politique trop ouverte, c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, effectivement, alors, il y a quelques intellectuels, quelques penseurs qui disent, mais à ce rythme-là, 500 000 par mois, 5 fois 12, ça fait 6 millions dans l'année. Si on fait ça pendant 5-10 ans, on ne parle plus anglais sur le territoire des États-Unis. Bon, mais ça, c'est des réflexions à long terme. Il y aura tellement d'événements politiques avant que ça se pose. Vous voyez que ça se pose déjà. Il y a certains États du sud des États-Unis où on n'entend presque plus parler anglais. Et ça, ça inquiète beaucoup les WASP du Massachusetts. Mais là, ça serait beaucoup plus si vous ajoutez des dizaines de millions de latinos.
Bon. Oui. Après, certainement que certains font plusieurs fois des allers-retours. Hein,
c'est facile. Administrativement, c'est facile, puisque vous êtes juste enregistré. Et puis, la police aux frontières, comme on appellerait chez nous, dit « vous pouvez aller ». Et ils vont. Et probablement, ils ont des points de chute, ils ont de la famille, etc. Bon, ils se débrouillent. Mais il y a donc sur le territoire de plus en plus de travailleurs illégaux, clandestins. Et qui va protester pour ça? On ne sait pas. Mais sûrement pas le patronat. Parce que le patronat, à la limite, c'est pas béni pour lui. Hein. Qui va aller ramasser les fruits et les légumes en Californie et en Floride? Ce sera des travailleurs illégaux à un petit prix. Hein. On connaît la mécanique, elle fonctionne pas qu'aux États-Unis. Hein. On l'a connue en France et on l'a connue en Espagne et un peu partout.
Oui, il faut s'attendre à une recrudescence de l'esclavage moderne, comme on dit.
Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà les nouvelles des États-Unis. Alors, ça, on n'en parle pas parce que, ça fait partie du libéralisme démocratique. C'est-à-dire, entrez, vous êtes illégaux, il peut vous arriver n'importe quoi du jour au lendemain, il suffit qu'on serre la vis et qu'on vous dise, c'est terminé, la fête, hein, pour qu'on vous renvoie chez vous, ou qu'on vous mette en prison, je ne sais pas ce qu'on peut vous faire, etc. Hein. Mais toujours est-il que cette espèce de basculement, ce va-et-vient entre le trop répressif et le trop libéral est une espèce de signe de panique. C'est des systèmes qui ne se gèrent plus du tout, c'est-à-dire au niveau de 500 000 personnes. Alors, je disais ça parce qu'on nous a tellement parlé des réfugiés ukrainiens que je me demandais s'il y en avait. Il y a des réfugiés latinos, pas que mexicains certainement, tous les jours, en masse, à la frontière, et qui passent le Rio Grande do Sul avec la bénédiction de la police. Alors, étrange reconversion, parce que vous êtes un salarié de la police aux frontières des États-Unis. Il y a encore un an, on vous disait soyez méchants, hein, soyez intransigeants, rejetez-les, tabassez-les. Enfin, on sait que ça n'a pas été joli à voir et tout. Et là, maintenant, on dit bienvenue sur le territoire des États-Unis, on vous accueille. On vous aime, allez-y, tentez votre chance. Hein, puisque les États-Unis, c'est un pays où on peut tenter sa chance, vous n'avez pas de papier, mais vous verrez bien. Hein. Alors d'autres ont réussi, d'ailleurs, ils sont rentrés en papier, puis ils sont restés, ils y sont toujours. Voilà. Mais grande incohérence, absence de vue à long terme, hein, et donc concurrence politique entre le trop et le pas assez, l'absence de ligne directrice, l'absence de vue un peu à moyen terme sur l'avenir d'un pays. C'était pour rappeler ça et pour rappeler qu'il y a quand même eu entre les États-Unis et le Mexique, alors le Mexique n'est pas seul responsable puisque c'est lui qui est le pays juste avant, qu'il est un peu embarrassé parce que la nouvelle présidence du Mexique, M. López Obrador, essaye de prendre, il le fait dans un certain nombre de cas ses distances par rapport aux États-Unis, mais il a quand même 3000 km de frontières, beaucoup de liens économiques, des liens personnels avec toute cette population qui vit d'un côté et de l'autre. Et puis, il a des intérêts des États-Unis sur son territoire. Donc, il a un peu de peine à prendre ses distances, mais il essaye. Il essaye, mais il n'arrive pas toujours, puisque ces derniers jours, le Congrès mexicain a refusé un projet de loi dont il était, lui, le porteur, pour renationaliser l'électricité sur le territoire du Mexique. Et il lui fallait, alors comme c'était un projet de loi d'ordre constitutionnel, il lui fallait 2/3 des voix à l'Assemblée, et il n'a pas eu tout à fait le nombre, et donc le projet n'est pas passé. Donc c'est pas facile, il essaye de reprendre la maîtrise de son économie, mais elle a été tellement libéralisée et états-unianisée par ses prédécesseurs qu'il a de la peine à remonter le courant. Mais quelquefois il le fait quand il peut. Je rappelle qu'il avait pris position pour accueillir Julian Assange, dont je recite le nom, puisqu'il y aura ce samedi une manifestation européenne à Bruxelles, pas à Paris, on ne fait plus de manifestations à Paris là-dessus, pour la défense de Julian Assange et pour exiger qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis. Parce que après tout ce qu'a fait Julian Assange pendant le temps où il était à la tête de Wikileaks, ça n'est jamais que dénoncer les crimes de guerre des États-Unis partout où ils avaient lieu. Et il n'était même pas l'auteur des fuites de documents qu'il a mis en lumière. Bon, donc on lui reproche simplement d'avoir montré la réalité de la situation politique des États-Unis et de leur activité. Voilà. Et puis dernière chose, comme quoi la tension internationale se généralise. Ces derniers jours, ces dernières semaines, la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée, tel est son titre officiel, a procédé à de nouveaux essais de missiles balistiques de moyenne portée qui se sont révélés être des réussites, des succès. Ce qui veut dire que la Corée du Nord est aujourd'hui en capacité d'expédier des petites armes nucléaires à proximité, enfin à quelques milliers de kilomètres de son territoire. Ça, c'est un élément important et c'est la réponse à la situation de tension qui est engendrée par les États-Unis et l'Occident en général. Puisque vous menacez tout le monde, on se prépare à se défendre. Et ça se traduit par une autre façon, c'est-à-dire que depuis pratiquement l'année dernière, le commerce entre la Chine populaire et la République populaire démocratique de Corée a monté de presque 80%. C'est-à-dire que de toute façon, les ennemis de la Corée du Nord ne pourront pas l'affamer et l'empêcher de manger comme elle le souhaite et l'empêcher de se développer technologiquement comme elle est capable de le faire. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez Internet, à vous amuser. Vous tapez le nom du fleuve Yalu. Vous savez que le fleuve Yalu, c'est le fleuve qui fait la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Et on pense que c'est comme au moment de la guerre de Corée en 1953, c'est-à-dire que c'est un endroit sauvage. Non, non. Si vous promenez au bord du fleuve Yalu, dans les villes qui bordent cet endroit-là, eh ben vous verrez une ville qui ressemble beaucoup à une ville chinoise, avec ses grands buildings, ses promenades, etc. La Corée du Nord n'est pas un trou perdu, contrairement à l'image qu'on veut nous en donner. Et le fait qu'elle ait des relations très améliorées avec son voisin chinois prouve bien qu'elle est sur la bonne voie de l'indépendance et de l'autonomie stratégique. Voilà. Ouf, dit-il. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors, on va faire une transition pour reparler de l'Ukraine et de ce qui s'y passe. Mais on va passer une petite musique. Ça va faire la transition donc, avec ma séquence latino-américaine parce que ce qui s'est passé, les relations entre les États-Unis et le Mexique sont des relations longues et compliquées. Il faut se souvenir que avant au XIXe siècle, les États-Unis étaient un territoire tout petit et que le Mexique, qui était une colonie espagnole, était un territoire très, très vaste. Au point que qu'il a fallu une guerre qui a eu lieu en gros entre 1848 et 1849 pour que les États-Unis approchent à peu près de la taille et de la forme qu'ils ont aux États-Unis au détriment de la couronne espagnole et au détriment donc du Mexique qui en était le détenteur, enfin le porteur plutôt sur le continent. Et il y a eu une guerre qui a duré en gros 2 ans, 1848-1849, que les États-Unis ont gagnée. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont grignoté le territoire espagnol, c'est-à-dire Texas, Nouveau-Mexique, une partie de la Californie, enfin tout de Nevada, tout ça est passé dans l'escarcelle du conquérant états-unien. Et la chanson que vous allez passer s'appelle Galveston. Alors Galveston, c'est une des grandes villes du Texas, et c'est un chanteur américain qui a été, donc c'est un conscrit de l'armée des États-Unis qui part se battre contre les Mexicains et qui au fond n'a pas du tout envie et qui fait une chanson à sa belle en disant « Je ne sais pas si je vais revenir, je suis très très triste, je suis une espèce de mercenaire de cette armée, on va régler leur compte aux Mexicains, mais j'aimerais bien pourtant te revoir ». Voilà ce que dit le chanteur qui s'appelle Campbell dans cette chanson « Galveston ».
I still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston. I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing. I clean my gun and dream of Galveston. I still see her standing by the water. Looking out to sea, and is she waiting there for me on the beach where we used to run? Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying before I dry the tears she's crying. Before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston, at Galveston.
C'était Galveston en souvenir dans la guerre, donc les Américains appellent ça the Mexican War. Alors, ne pas confondre avec Fort Alamo. Fort Alamo, vous avez tous vu Fort Alamo, ouais, j'imagine, mais qui se passe en gros, c'est 10 ou 2, je crois que c'est en 1835. Et là, c'est une première tentative, mais mal organisée, de certains colons du sud des États-Unis qui essayent de résister à l'armée espagnole. Mais là, ils vont perdre, vous savez que ça se termine très mal pour eux. Bon. Et puis ensuite, alors je ne veux pas ne pas le dire, parce que à la suite donc de cet échec, de cette dramatique perte d'une partie de l'Empire colonial par la couronne espagnole, il y a quelqu'un qui veut prendre la place en disant « Les Espagnols n'ont pas tenu le coup, mais moi je veux montrer qu'on peut résister à cet impérialisme en cours de constitution. » Et ce monsieur qui pense ça s'appelle Napoléon III. Napoléon III qui va trouver, donc, dans un successeur de la couronne d'Autriche, l'empereur Maximilien, un candidat à venir prendre la place des Espagnols défaillants. Et il va donc tenter une opération, donc qui a lieu en 1867-68, hein, de conquête, donc de reconquête du territoire états-unien, enfin du territoire espagnol pris par les États-Unis, qui va être un échec catastrophique, hein, puisque Maximilien s'enfuira, sera même assassiné pendant son retour, sa tentative d'évasion, etc. Bon, ça se termine très mal, mais il faut voir donc que ces rapports entre le monde colonisateur dont la France fait partie, très forte partie à l'époque, elle est en train d'achever ou de poursuivre la conquête de l'Algérie en particulier, elle est en train de s'intéresser au Maroc, à la Tunisie, enfin, donc on est en pleine période d'euphorie coloniale le Second Empire, et l'Espagne est un peu déclinante, et en fait on a ces rapports entre colonisateurs qui fait qu'un colonisateur essaye de chasser l'autre. Quand il en voit un qui a des difficultés, qui perd un peu du terrain, il va dire ben, je vais essayer de prendre la place. Mais on reste entre colonisateurs. avec quelquefois aussi des liens de famille, c'est compliqué, l'Europe, etc. Mais ça, c'était bon à rappeler, parce que donc il y a une très très longue histoire, et même une autre partie de l'histoire de France qui se situe aux États-Unis aussi, puisque vous savez que Napoléon Ier, lui, a vendu ce qu'on appelait à l'époque la Louisiane, qui est beaucoup, beaucoup plus que la Louisiane, l'état actuel de la Fédération des États-Unis, c'est-à-dire en gros un tiers du territoire actuel des États-Unis était la Louisiane française. Et ça, c'est Napoléon Ier, vend pour avoir de l'argent et pour, financer sa guerre contre l'Empire britannique. Mais nos histoires sont mélangées. Mais revenons-en au conflit actuel. Alors, l'Ukraine, je vais parler de l'Ukraine. Alors, d'une part, pour dire que toutes ces questions relatives à l'Ukraine sont compliquées à suivre. On est dans une guerre de propagande considérable. Vous pouvez lire à peu près tout et le contraire sur tout. Et c'est difficile d'arriver à énoncer. Donc, il faut le faire avec une certaine prudence. Dire, voilà ce que j'ai vu, voilà d'où ça vient, voilà quelle conclusion, voilà quelle leçon on peut en tirer. Alors, je vais commencer par un élément qui a été beaucoup vu, enfin, pas beaucoup vu, en fait, en vérité, mais beaucoup exploité dans la propagande du camp occidental, qui est le naufrage du croiseur Moskva. Ah, oui. Commençons par ça. Alors, le croiseur Moskva, qui était donc le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, puisque du fait de son territoire un peu particulier et très très grand, la Russie a trois flottes de guerre. Une flotte du côté ouest au niveau de la Norvège, disons, hein, sur cette partie-là. Une du côté pacifique, vers le Kamtchatka et les îles Kouril et Vladivostok. Et puis, une flotte en mer Noire. Alors, cette flotte en mer Noire, elle a d'ailleurs cette particularité d'être un peu enfermée, puisqu'on ne sort pas facilement de la mer Noire, il faut passer par les détroits. Donc, passer en territoire turc, avec l'accord de la Turquie. Et vous savez que les règles qui ont été fixées par la convention de Montreux de 1937 disent très clairement que la liberté du commerce est acquise dans les détroits, et donc la Turquie laisse passer tout navire de commerce qui demande le passage. Par contre, la Turquie se réserve le droit, en cas de conflit militaire, d'interdire le passage des navires militaires. Elle ne veut pas être complice ou augmenter une guerre. Donc la Russie a sa flotte en mer Noire, comme l'Ukraine a sa flotte en mer Noire, comme la Roumanie a sa flotte en mer Noire, comme la Turquie a sa flotte. Mais on ne peut pas. La Turquie n'est pas volontaire et elle n'a pas été sollicitée, même si elle l'était, je pense qu'elle refuserait aux États-Unis, de faire rentrer aujourd'hui des navires de guerre des États-Unis dans la mer Noire ou britannique. Ah, ça, c'est très clair. Autrement, elle viole la convention de Montreux et à ce moment-là, tout explose. C'est-à-dire que les Russes peuvent sortir librement, les Américains, on a la guerre généralisée sur la mer Noire. Donc ça, le verrou turc est tout à fait important. Alors, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise des agissements de Erdogan, là, il a un atout, et un verrou et une puissance qui... Enfin, il pèse très, très lourd dans la taille des événements militaires à cet endroit du monde. C'est-à-dire que, ou ça devient une guerre navale mondiale qui se passe là, sur la mer Noire, ou bien elle n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'il y a des accrochages entre belligérants riverains de la mer, mais pas plus. Ça, c'est pour situer le cadre. Bon, donc, la Russie a une flotte en mer Noire, une flotte militaire, et comme l'Ukraine en a une, comme la Roumanie en a une, comme la Turquie en a une, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui s'est passé, donc, il y avait donc, cette flotte de la mer Noire russe, avait un navire amiral, un croiseur, un vieux bâtiment construit dans les années 60, qui avait été apparemment modernisé, qui a coulé. Pourquoi, comment ?
Vieux. Hein,
voilà, oui, années 60, oui, c'est pas un bâtiment tout neuf. D'ailleurs, la flotte militaire, alors si je le dis, la flotte militaire russe, d'une façon générale, est assez âgée, à part la partie sous-marine, qui a été modernisée, mais pas le reste. La Russie n'a qu'un porte-avions très ancien, lui aussi, l'amiral Kuznetsov, et les autres bâtiments ne sont pas très récents. Parce que la Russie n'a pas investi dans sa modernisation militaire, n'a pas beaucoup investi dans les flottes, à part la flotte sous-marine et les flottes de service à bordure des côtes. Bon.
L'Union soviétique.
Oui, c'était pas son terrain de bataille. Ils avaient des possibilités, mais l'arme sous-marine était importante, pas tellement le reste. Ils n'avaient pas l'intention de concurrencer, par exemple, les États-Unis en termes de porte-avions, d'avoir des porte-avions partout. C'était pas du tout la ligne politique de l'URSS. La Russie n'a toujours qu'un porte-avions. Elle en avait un deuxième en construction qui a été racheté par les Chinois, je le rappelle, etc. Mais donc, c'était pas leur terrain de jeu, disons. À l'inverse des États-Unis, qui se considèrent comme une puissance maritime océanique mondiale et qui donc veulent être partout. Donc bâtiment amiral, ça veut dire le plus gros bateau, qui est donc le croiseur, avec toute une série donc, d'escorteurs, de destroyers, de plus petits bateaux, qui commandent une flottille qui circule dans la mer Noire, dans les eaux territoriales de la Russie, et même en général, puisqu'il y a liberté de circulation, dans les eaux internationales. Et puis l'Ukraine a aussi une flotte. Alors ce navire est coulé. Alors, ce qu'on en a pris, alors c'est là qu'il faut être très attention, ce navire coule. Alors, on a vu quelques images, très très peu, où effectivement, il y a le feu à bord.
En mer Noire.
En mer Noire. Il est en mer Noire, puisqu'il ne pouvait pas en sortir, c'était là qu'il était affecté.
C'est pas Azov.
Voilà.
C'est pas dans la mer d'Azov.
Non, c'est carrément en mer Noire, au large des côtes de la Crimée, en gros.
Ouais, de la Crimée.
Voilà. Donc, on voit de très très rares photos avec une énorme panache de fumée noire qui monte du navire. Et la dernière photo que j'ai vue ce matin montre qu'il a une certaine gîte, c'est-à-dire qu'il a été touché et qu'il est en train de faire haut. Et avoir de la gîte, ça veut dire qu'il penche. Hein. Les premières photos qu'on avait vues, on ne voyait pas, on voyait que la fumée. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors il y a des hypothèses. Alors tout ce qui circule, ce sont des hypothèses. Alors hypothèse 1, il y a le feu dans le bateau. On n'a pas vu d'avion arriver au-dessus. Je pense qu'il était protégé quand même de ce point de vue-là. On n'a pas vu un autre bateau tirer sur celui-ci. On a vu cette colonne de fumée. Alors, les hypothèses étaient variées et nombreuses. Il y avait sabotage interne, parce qu'après tout, on ne peut pas exclure qu'il y ait dans l'équipage russe d'un navire russe des saboteurs qui risquent leur peau en faisant ça. Mais ça existe dans toutes les guerres. Ce n'est pas impossible. Hypothèse parmi d'autres. Ensuite, il est apparu, alors là, c'est dans les cercles otaniens, l'hypothèse d'un missile, un missile qu'on appelle un missile mer-mer, c'est-à-dire qui part d'un bâtiment en mer sur un autre bâtiment en mer, d'un modèle Neptune. Ce modèle serait tout juste mis en service dans les armées de l'OTAN depuis l'année dernière. Mmh. Ah ! Alors, ça veut dire quoi, ça ? On vous dit, alors ça a été dit, mis en service dans les armées de l'OTAN depuis l'année dernière. Alors, l'Ukraine, je le rappelle, n'est pas membre de l'OTAN. Mmh. Donc, ce missile a été tiré par quelqu'un qui en avait la possession. Ou alors, on avait donné à l'Ukraine, alors qu'elle ne faisait pas partie de l'OTAN. Ben, c'est là ou l'autre. Ben, bon. Mais donc, ce missile donc, qui aurait touché le bateau serait donc un missile de conception très récente.
Mais il ne faut pas oublier que quand même, il y a énormément des armes de l'OTAN qui a tué.
Mais bien sûr, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous savez que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais que la Roumanie, qui est juste à la frontière, hein, puisque la Roumanie a une frontière commune avec l'Ukraine, elle est dans l'OTAN. Et que le gros d'effort, par exemple, il y a des régiments de chasseurs alpins français qui sont en Roumanie pour l'instant, pour le compte de l'OTAN. Hein. Et donc, il est très possible qu'un navire ait dû à sa disposition le missile Neptune. Bon, donc, ça dit, tiens, mais l'OTAN est quand même très directement impliqué, puisque ça ne peut pas être normalement l'Ukraine qui a tiré ce missile. Et puis, comme il s'agit de missiles guidés, c'est-à-dire qu'on ne les lance pas en l'air comme on tire un coup de fusil à la chasse, hein, il s'agit de missiles guidés, c'est-à-dire qu'il y a un système de surveillance aérienne informatisé qui permet de dire la cible, qui est donc le croiseur Moskva, est à tel endroit, avec les coordonnées comme vous avez sur un GPS, et c'est là qu'il faut tirer. Et éventuellement rectifier le tir en fonction des mouvements du navire, bon, et l'atteindre. Bon. Ça veut dire qu'il y avait donc un système de veille otanien qui surveillait le navire en Moskva et qui a fait en sorte que le missile arrive à destination. Bon. Donc, implication supplémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service de surveillance ? C'est un système de surveillance qui se fait avec des avions radars qui circulent, et puis qui envoie des informations qui sont cryptées, qui sont codées, envoyées à l'endroit d'où le missile va être tiré. Enfin, donc, il y a une implication militaire de très haut niveau dans la capture, enfin, dans la chute, dans l'accident du Moskva. Bon, c'est ça, la seule chose qu'on peut tirer, hein, sans savoir quoi que ce soit, c'est qu'effectivement, ça ne s'est pas passé tout seul. Ça a été programmé pour faire un effet médiatique maximum sur les populations. Et ça a été présenté comme une victoire ukrainienne.
Oui,
c'est-à-dire, c'était façon de dire, regardez, l'Ukraine, l'armée ukrainienne se défend très bien. Elle est en capacité de couler le bâtiment amiral de la flotte russe. Alors c'est un succès extraordinaire, d'autant plus que couler un navire de cette taille-là, c'est assez rare dans les guerres navales. Le dernier cas est assez ancien relativement. C'est le cas du navire amiral de la marine argentine qui, au moment de la guerre des Malouines, a été coulé a été coulé par donc des missiles qui étaient en plus des, ça s'appelait le croiseur Belgrano, je crois, oui, par des missiles anglais. Donc c'est le dernier cas, et c'est très très rare qu'il y ait de grandes batailles navales et qu'on coule des navires de cette taille-là. Hein, donc le dernier, c'est le 1976, guerre des Malouines. Et donc c'est du grand spectacle militaire. Hein, un bateau de cette importance, de cette taille qui est coulé par l'adversaire, c'est psychologiquement une victoire extrêmement forte. Et donc, bien sûr, on l'a attribué aux Ukrainiens, alors que manifestement, ce n'est pas les Ukrainiens qui ont pu le faire. Ou alors, ils ont été diablement aidés. Ensuite, dernier élément sur cette enquête que je mène devant vous, le bateau, donc l'équipage est secouru, c'est-à-dire que le feu s'est propagé, et à un moment donné, le commandant du navire et l'amirauté russe a dû dire « Bon, maintenant, on sauve le personnel, hein, parce que le bâtiment, on n'arrivera peut-être pas à le sauver. » Donc le personnel est évacué, ça n'a pas été infirmé, donc ils ont sauvé les 500 marins qui étaient à bord. Et ensuite, il y a eu un début de remorquage. Et la dernière photo qu'on a vue, je crois que c'est d'aujourd'hui ou d'hier, montrait effectivement un remorqueur à proximité du Moskva qui a déjà pas mal de gîtes, mais qui était prêt là pour lancer des amarres et le remorquer jusqu'à la côte et peut-être pour le réparer. Et puis apparemment, l'opération a raté. Et donc,
il paraît que la mer était très, très...
Mais j'ai eu des informations contradictoires, disant les gens qui sont allés regarder la météo sur la mer Noire, en disant non, la mer n'était pas si grosse. Alors là, il y a des doutes. Mais vous voyez, il faut travailler sur les informations sur la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire décortiquer photo après photo. Alors, on ne le fait pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce bateau est là, ce remorqueur qui est là, qui attend, etc. Bon, le remorqueur est venu. Apparemment, il n'a peut-être pas réussi à passer les amarres. De toute façon, le bateau a coulé, amarré, le bateau a coulé.
Le bateau a coulé.
Et ça, le ministère de la Défense russe l'a reconnu, il n'y a pas de souci. Le bateau a coulé. Bon. Alors, il a coulé, et donc ça pose la question de ce qui va arriver à ce qu'il y a dedans. Parce que dans un navire de ce genre-là, il y a du matériel que ce n'est pas uniquement de la lutte anti-pollution qui le concerne. Donc, et puis, il y a des systèmes d'information, de transmission à tous les bateaux de sa flotte. Donc, il y a beaucoup de
matériel. Ils ont sauvé une bonne partie. Hein.
Matériel d'intérêt tactique. Et puis, de toute façon, une fois coulé, ça va permettre, parce que ça s'est déjà fait, à envoyer des plongeurs et des drones sous-marins pour aller récupérer ceux qui méritent de l'être. Et vous imaginez qu'il risque d'y avoir, mais ça on ne nous le montrera pas, des combats de nageurs sous-marins ukrainiens et russes ou otaniens et russes pour récupérer les morceaux du croiseur Gmosa.
Ah, ouais.
Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Et puis, alors ça c'est le premier aspect, donc cette guerre est compliquée à décortiquer. Il faut en voir l'importance. C'est pas très important parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, appelons-la comme ça, ne se plaçait pas sur le terrain nautique et sur le terrain de la mer Noire. C'était secondaire. Alors, le seul point qui est important de noter, c'est que les mines, il y a beaucoup des mines flottantes. Vous savez que les mines sont des espèces
il y en a eu énormément.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est des grosses bombes qui flottent. Alors, elles sont entre deux eaux, pas trop profondes pour qu'un bateau qui passe puisse les heurter avec sa coque. Mais pour qu'elles ne se baladent pas, on les accroche au fond. Bon, elles sont arrimées. Bon. Mais dès l'instant où vous les désarrimez, ou dès l'instant où elles se désarriment toutes seules, parce que là encore, on est dans le doute, les mines se mettent à se promener. Et donc, n'importe quel bateau qui passe peut sauter sur une mine. Bon, on en est aujourd'hui au chiffre de 400 000 en liberté, de 400 mines en liberté, dans la mer Noire.
C'est vrai.
Ça inquiète y compris les Turcs, parce qu'ils en ont trouvé une à l'entrée du Bosphore.
C'est ça.
Bon, ça veut dire que la circulation civile, commerciale, dont je parlais à propos du blé tout à l'heure, est très menacée. Donc, voilà. Donc le blé qui pourra partir de Russie ou d'Ukraine, peut-être il n'arrivera pas parce que le bateau céréalier qui le transportera sera coulé. Donc il y a tout un travail. Mais en fait, là, on a donc un acte. Alors on a mis ça sur le compte du mauvais temps, j'ai peine à le croire, parce que pourquoi il y aurait plus mauvais temps cette année que depuis 50 ans dans la mer Noire. Mais donc c'est un acte de brigandage, de piraterie internationale, consiste à dire, je rends la navigation...
Vous en voyez beaucoup, hein.
400 000.
Mais excusez-moi, les 400 000 mines, elles viennent d'où ?
400 000 ukrainiennes.
qu'elles
oui.
ont mises.
Ah oui, elles... ah, ça, l'Ukraine reconnaît que c'est elles. Ouais,
c'est eux qui l'ont...
qui les ont mises. Ouais. Donc, ils rendent la navigation commerciale, civile, normale dans la mer Noire quasiment impossible pour un certain temps. Alors, parce qu'il y a, des navires spécialisés, ce qu'on appelle des dragueurs de mines, il y a des équipages formés, etc. Mais il faut les ramasser l'une après l'autre, les faire sauter dans des endroits tranquilles, etc. Donc ouais. la guerre touche le commerce, là. C'est pas du tout le règlement de compte entre les uns et les autres.
D'ailleurs, les Turcs, ils sont inquiets.
Mais hein, oui, ils en ont trouvé une dans le Bosphore.
Dans le Bosphore, ils en ont trouvé quelques-unes. Ouais.
Voilà. Alors ça, c'est l'aspect guerre. J'en finis sur l'aspect guerre, mais je vais parler laboratoire pharmaceutique. Vous voyez, le panorama sera complet. Mariupol, est libérée, en ce sens que désormais, la ville de Mariupol, qui a été donc le point de concentration des unités néofascistes de l'armée ukrainienne, se sont rendues.
Oui.
Elles se sont rendues avec difficulté, mais elles s'étaient enfermées dans une immense aciérie, qui était une des plus grandes aciéries de toute l'Ukraine, avec toute une histoire derrière elle. Et donc, l'aciérie était enfermée, et il était très difficile donc, pour l'armée russe et pour l'armée des deux républiques indépendantistes, il était très difficile de rentrer dans une installation où il y avait des hauts fourneaux, des coqueries, enfin, d'une installation industrielle extrêmement dangereuse. Mmh. Donc ils ont réussi à enserrer tout ça et finalement une partie donc, des combattants ukraino-nazis s'est rendue. Il en reste très peut-être, mais plus beaucoup. Et il a été dit, les autorités russes et les militaires russes ont dit, ceux qui ne sortent pas, tant pis pour eux. On vous l'a laissé sortir, vous n'avez pas voulu sortir. Maintenant, on va finir par donner l'assaut. Alors ça va se faire, mais de toute façon, on peut considérer, et ça c'est juste et c'est plus contesté, que la ville de Mariupol est libérée. Mariupol était le principal port commercial de l'Ukraine. Bon, ils n'ont plus de port commercial. Et je finis par la partie biologique et laboratoire, parce que là, ça devient très, très intéressant. Alors, vous savez, ça a été admis et dit même par l'armée russe que dans ses premiers jours, donc, à l'intérieur du territoire ukrainien, l'armée russe est allée d'une part s'installer à Tchernobyl, ça vous connaissez, et d'autre part, elle a fait l'inventaire des laboratoires, donc, d'origine états-unienne, des laboratoires militaires concernant les armes chimiques et biologiques. Elle a ramené beaucoup d'informations qui sont en cours de décryptage, mais ils commencent déjà à avoir vu pas mal de choses. Et donc, il est établi que dans ces laboratoires, on avait en préparation toute une série d'armes biologiques en particulier, donc des armes pouvant amener des vecteurs pouvant provoquer des maladies comme la peste, certains cancers, le typhus, le choléra. Il y avait un grand choix. Et il y avait des recherches en particulier sur les porteurs de ces virus ou de ces bactéries dangereuses qui pouvaient être des oiseaux. Qui pouvaient être des migrateurs oiseaux, qui pouvaient faire des milliers de kilomètres et qui, dûment bagués, quand ils arrivaient sur le territoire qui était visé par cette arme donc volante, étaient abattus par quelqu'un qui était au courant. Et donc l'oiseau, avec sa charge virale et bactérienne, tombait à l'endroit où il était prévu qu'il tombe. Et de là, donc, le virus ou la bactérie se répandait sur le territoire qui avait été choisi. Donc tout ça est établi. Tout ça est établi et tout ça a été confirmé avec beaucoup de détails. Je voulais m'arrêter là-dessus avant de terminer pour dire que madame la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui s'appelle Maria Zakharova, que vous avez peut-être vu à certaines occasions sur vos écrans, a fait un point très précis sur ces activités des laboratoires donc états-uno-ukrainiens, appelons ça pour faire simple, pour souligner en particulier l'énorme implication de l'Allemagne dans toute cette activité-là. Et elle le fait en citant des noms de laboratoires et d'instituts de recherche tout à fait officiels. J'en donne quelques-uns. L'Institut Friedrich Löffer de Reims, l'Institut Bernard Nort de Hambourg, l'Institut Robert Koch de Berlin. Alors Koch, ça vous dit quelque chose parce que vous avez tous entendu parler du bacille de Koch, hein, K-O-C-H. Ben ça, c'est le pendant. Koch était le concurrent de Pasteur à la même époque, hein, mais de même stature scientifique. Hein. Bon, et tout ça, donc, la Russie le sait désormais et elle dit l'implication de l'Allemagne est considérable dans cette activité-là, c'est-à-dire qu'elle confirme que dans la guerre qui a lieu en Ukraine, l'Allemagne était en train de s'approprier le territoire et l'économie ukrainienne sans avoir besoin de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils auraient fait ça pour eux. Alors quand on pense, dernier clin d'œil à l'histoire, que l'Allemagne était garante des accords de Minsk, on dit menteur, tricheur, voleur, hein, diffamateur. Voilà, ils ne garantissaient rien du tout. Ils étaient en train de s'approprier l'industrie ukrainienne et avec ses aspects les plus dangereux. Voilà. Après, on vous dira que c'est la Russie qui veut la guerre biologique. C'est une farce. Merci de votre attention. On se retrouve mardi prochain.